Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir pour une rencontre discussion autour du livre de Jacques Lucic. On remercie d'être là aussi pour nous parler donc de ce livre qui est sorti aux éditions de La Lenteur il y a quelques semaines. Donc c'est au rendez-vous des mortels, de loin vous devez voir que le visuel, et il y a marqué en sous-titre « Le déni de la mort dans la culture moderne, de Descartes au transhumanisme ». Voilà, c'est le blanc sur fond jaune, ça fonctionne pas très bien, mais voilà, il est très beau. On remercie chaleureusement Aurélien Berland d'à nouveau venir assurer la modération de la rencontre, poser quelques questions et organiser peut-être un peu la discussion autour du livre et des thèmes que développe Jacques.
Bonjour, donc je ne suis pas l'auteur, hein, il est à ma droite. Je voulais juste vous dire juste deux mots sur la maison, sur les éditions de La Lenteur, auquel je participe, enfin je donne des coups de main à cette petite maison d'édition militante et où tout le monde travaille de manière bénévole. On arrive maintenant à payer quand même les maquettistes et les correcteurs, etc. Mais sinon, c'est pour l'instant, c'est pour la gloire. C'est une maison d'édition qu'on a fondée il y a plus de 10 ans, avec à partir du constat d'un certain divorce entre le progrès technique et ce qu'on pourrait appeler le progrès humain. C'est-à-dire que moi j'ai grandi toute ma jeunesse dans l'idéologie ambiante que le progrès technique et technologique est forcément positif, allège les conditions de vie, allège le travail, apporte de l'abondance, etc. Et donc poserait les bases d'une société enfin juste, égalitaire et où les gens, où la liberté des gens est respectée. Et moi, à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir et à m'engager politiquement à partir des années 2000, j'avais surtout le sentiment que c'était pas vrai, que la plupart des progrès techniques auxquels on était confrontés, c'était plutôt des sources d'oppression, des nouvelles sources d'inégalité, des sources de dégradation dramatique de l'environnement avec les conséquences en termes de domination sociale qui peuvent en découler. Je pense par exemple au nucléaire. Enfin, moi, on était pas mal engagés dans les questionnements autour du nucléaire. Et puis après, dans pas mal de questionnements sur toutes les nouvelles technologies d'identification électronique. On avait fait des actions contre la biométrie à l'époque où ça commençait à se développer. On commençait à mettre des dispositifs biométriques dans des lycées, dans les cantines des lycées. Et comme cette question-là, ce divorce entre progrès technique et progrès humain, et quelque part finalement la fascination pour les bienfaits de la technologie, comme cette fascination restait très forte également dans les milieux militants qui réfléchissaient à construire une autre société meilleure, etc. On s'est dit que c'était important qu'il y ait un travail là-dessus parce que les autres groupes militants ne le faisaient pas forcément. Donc on a publié pas mal de bouquins, de réflexions sur les enjeux politiques de la science et de la technologie, les enjeux sociaux, politiques et écologiques, on va dire, de la science et de la technologie aujourd'hui. Dans la lignée de pas mal d'ouvrages autour de ces questions-là, On a aussi du coup réédité des textes anciens, enfin, de parce qu'on n'est pas les premiers à avoir constaté que la technique pouvait avoir des usages politiques d'oppression, de domination et d'exploitation. Dans le cadre de tous ces ouvrages, on a rencontré Jacques Luzy qui nous a proposé un livre sur le transhumanisme qu'on vous présente, que Jacques va vous présenter ce soir. Et voilà, je lui laisse la parole.
Bonsoir, j'ai donc une quarantaine de minutes. C'est un très bon orateur. Hein, donc, donc je vais commencer par quelques... peut-être que ça va vous paraître quelques banalités, mais c'est quelques rappels importants. Donc l'idée de base, qui est très banale, c'est que nous sommes dans une société qui est dominée depuis deux siècles par ce qu'on appelle le capitalisme industriel, qui est entraîne une suite de révolutions industrielles. Donc depuis le début du 19e siècle, il y a une succession de révolutions industrielles qui ont marqué cette domination. On est très habitué, les historiens qui ont un peu de recul avec cette suite de révolutions industrielles, la comparent comme modification de l'existence humaine à la révolution néolithique, mais en beaucoup plus rapide et en beaucoup plus brutal. D'accord. Donc c'est ce que je vais parler. Comment définir le capitalisme industriel ? C'est une société qui est instituée et organisée par l'État. Donc je sais qu'il y a aussi l'idée qu'il y a une opposition entre le capitalisme et l'État. Historiquement, c'est faux. Le capitalisme est une création de l'État, le capitalisme moderne. Et donc l'État crée le capitalisme pour soutenir une accumulation indéfinie, illimitée du capital. Le capital, c'est de l'argent qui se valorise. D'accord, vous avez 10 euros, vous rentrez dans un processus de valorisation, à l'issue du processus de valorisation, vous aurez 12 euros, et ainsi de suite. D'accord. Donc évidemment, l'échelle à laquelle je donne mon exemple là, est mauvaise. Il faut penser à Bernard Arnault, qui est bien emmerdé avec ses 100 milliards d'euros, et il faut bien qu'il en fasse quelque chose. S'il le laisse dormir, il va perdre de la valeur, donc le problème de... Bernard Arnault, c'est de trouver des débouchés rentables à ces 100 milliards de manière à ce qu'il ne perde pas de valeur. Donc il en gagne. Et le problème, c'est que dans 5 ans, Bernard Arnault se retrouvera avec 120 milliards et que son problème sera encore plus grave. Oui, ça fait sourire, mais on est une société qui est organisée pour résoudre les problèmes de Bernard Arnault. Donc le principal facteur de l'expansion du capital depuis sa création, c'est la technologie. Et par technologie, la technologie, c'est pas la technique, donc on pourra revenir là-dessus plus tard. Je vais donner beaucoup d'affirmations, mais ça vient du fait que j'ai 40 minutes, donc je peux pas tout justifier. Donc la technologie, c'est l'application systématique des avancées de la science. D'accord. Dont les progrès sont financés soit par l'État, soit par le capital. La science n'aurait pas progressé si elle n'avait pas été soutenue soit par l'État, soit par le capital. Donc ce qui veut dire que l'État, le capital et la technoscience forment un système, c'est les trois piliers de notre société. D'accord. Et ils sont en mouvement perpétuel. Donc un exemple très rapide. Je vais essayer d'être très rapide. C'est quelle est la justification qu'on trouve des nouvelles technologies si, par exemple, vous allez sur le site du gouvernement actuel. Donc, j'ai fait ça il y a une quinzaine de jours. J'ai tapé technologie sur le site et je suis tombé sur des énoncés qui datent d'avril 2019, donc qui sont pas très anciens. C'est le ministre de l'économie et des finances, donc Monsieur Bruno Le Maire. Qui va soutenir le développement de l'intelligence artificielle en France. Donc c'est toujours l'État qui favorise un certain développement. Donc voici comment il définit l'intelligence artificielle. C'est la technologie de rupture des cerveaux artificiels. Donc on est bien dans l'idée que la technologie, c'est l'application de la science. D'accord. L'intelligence artificielle, au départ, l'informatique, la question initiale, c'était une question scientifique, c'était comment fonctionne le cerveau humain. D'accord. Ils en ont sorti des cerveaux artificiels. Et cette artificialisation s'appelle l'intelligence artificielle. D'accord. Donc pourquoi Bruno Le Maire veut soutenir l'intelligence artificielle ? D'abord parce que c'est un enjeu économique. Donc ça va permettre d'accroître la compétitivité des entreprises nationales. Donc on est bien dans le cadre que l'État soutient une technologie parce que ça va servir à l'accumulation du capital. D'accord. Et politique. Donc je vous le cite, il ne peut pas y avoir pour lui de souveraineté politique sans souveraineté technologique, ni de souveraineté technologique sans maîtrise totale de l'intelligence artificielle. Donc souveraineté politique, c'est souveraineté militaire. Il faut entendre. Donc grosso modo, ce que dit Bruno Le Maire, c'est qu'il veut soutenir l'intelligence artificielle pour favoriser l'accumulation du capital et pour des raisons étatiques, d'accord, la puissance militaire de l'État. Donc d'ailleurs, à la même époque, la ministre des Armées, j'ai appris le nom des ministres comme ça, qui est Florence Parly, donc indiquait que l'intelligence artificielle est une technologie stratégique indispensable pour notre supériorité opérationnelle. Supériorité opérationnelle, c'est supériorité opérationnelle militaire. D'accord. Donc c'est associé en particulier à ce qu'on peut appeler... Il faut pas que je fasse de 8-8 parce que sinon je vais jamais m'en sortir. C'est associé au néocolonialisme. D'accord. Notre industrie a besoin de ressources. Les ressources sont distribuées dans le monde, en particulier dans les pays du Sud. Il faut aller chercher ces ressources-là et souvent pour assurer le bon approvisionnement de ces ressources, il faut une présence militaire. Je vous signale que la France fait la guerre en permanence, moins que les États-Unis, à une autre dimension, on est des petits États-Unis, mais on fait la guerre en permanence, malgré tout. Donc notre armée est dispatchée dans certains pays, c'est ce qui nous permet d'avoir du pétrole, d'avoir de l'uranium, etc., etc. Donc l'idée, c'était simplement pour vous montrer que même à partir des déclarations de nos ministres, ben, vous avez le lien entre l'État, la technologie et le capitalisme. Donc pour moi, ça a quelques implications. Petit à petit, je vais arriver à la mort, hein, vous inquiétez pas. Donc l'implication la plus importante, à mon avis, c'est de bien voir que le capitalisme, effectivement, produit des valeurs d'usage. Donc ce qu'on appelle des valeurs d'usage, c'est des richesses matérielles. D'accord. Des richesses matérielles, des processus de production, des biens qui incorporent des technologies. Donc toute cette richesse matérielle, j'ai passé la journée à me balader dans Toulouse, hein, on se rend pas compte, pour faire dans la caricature un peu provocatrice, Louis XVI n'avait pas de salle de bain et il roulait en carrosse. D'accord. Donc un type qui est au SMIC aujourd'hui, il a une salle de bain, il roule en bagnole. Il a un luxe, il a un niveau de vie que rêvait même pas Louis XVI. Donc effectivement, vous avez énormément... Nous sommes dans l'opulence matérielle, mais c'est un effet secondaire du capitalisme. D'accord. Le capitalisme ne produit de valeurs d'usage que uniquement parce que ces valeurs d'usage permettent l'accumulation du capital. Comme l'accumulation du capital est illimitée, la production de valeurs d'usage doit l'être. Donc ça, c'est, il faut, je pense qu'il faut en avoir quand même relativement conscience, parce que de cette manière-là, le capitalisme produit le renversement des fins et des moyens. D'accord. La fin, c'est l'accroissement illimité des moyens, et ensuite on crée les finalités qui sont associées à cet accroissement des moyens. Donc cette illimitation, puisque c'est un processus, j'invente rien, hein, le capitalisme, Aristote l'appelait la crématistique. D'accord. Il l'opposait à l'oikonomia. L'oikonomia, c'était une économie paysanne en général qui était associée à la satisfaction des besoins. Par contre, il distinguait la crématistique de l'oikonomia. La crématistique, c'était l'activité économique orientée vers le profit. D'accord. Et il considérait que cette activité, donc cette crématistique, était antinaturelle parce qu'elle n'avait pas de limite. D'accord. C'est très simple. Hein. Bernard Arnault a 100 milliards. Dans 5 ans, il a 120 milliards. Dans 10 ans, il en a 150. Il n'y a pas de limite. D'accord. Donc, on l'a célébré quand même cet été. Hein. Je reviens sur Bernard Arnault. C'est pas... On l'a célébré cette année parce que c'était le premier... c'est le champion du monde français. Quoi. C'est le premier à avoir dépassé 100 milliards. Donc, cette illimitation... Elle a été légitimée avant même le début des, de la révolution industrielle par une nouvelle philosophie qui s'est développée entre 1850 et 1900, qui est la philosophie du progrès, qui est une philosophie de l'histoire. Grosso modo, ce que dit cette philosophie, là aussi je vais un peu caricaturer, c'est que l'histoire part de la sauvagerie, elle va à la civilisation, et que ce passage de la, la sauvagerie à la civilisation est dû au progrès technique. D'accord. Donc en systématisant le progrès technique avec la technologie, nous allons vers la civilisation. C'est le progrès. Donc le symbole en fait de ce progrès, c'est si vous parlez avec un progressiste, il vous dira « oui, mais quand même, on a allongé la durée de vie ». C'est extrêmement discutable, on pourra en discuter plus tard. Ce qui a vraiment allongé la durée de vie, c'est l'hygiène et la baisse de la mortalité infantile. C'est à peu près tout. Donc quand on vous dit qu'en 1800, que les gens vivaient jusqu'à 50 ans, c'est faux, c'est une moyenne. D'accord. C'est une moyenne qui prend en compte la mortalité infantile. Donc qui prend en compte tous les gens qui sont morts entre 0 et 2 ans. D'accord. Donc évidemment, si entre 0 et 2 ans, ben, les enfants meurent plus, ça allonge la moyenne. C'est à peu près tout. Donc ça, il faut voir que c'est au départ de la civilisation dans laquelle nous vivons. Donc juste un petit exemple qui est le marquis de Condorcet, qui est un des grands théoriciens du progrès. Donc dans un livre qui s'appelle « L'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain » qui date de 1793... Donc je donne juste une petite citation. Le perfectionnement de l'espèce humaine doit être regardé comme susceptible d'un progrès indéfini, donc illimité. Donc c'est un processus qui ne pourra jamais s'arrêter. Si bien que la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et la mort n'a elle-même aucun terme assignable. Donc grosso modo, ce que dit Condorcet, c'est que grâce au progrès technologique, grâce aux lumières, ce qu'on appelait les lumières à l'époque, on va pouvoir allonger de manière illimitée la durée de l'existence humaine. À sa décharge, en 1793, il était recherché, il a fini guillotiné, vous savez, donc il allait mourir. Donc c'est peut-être une projection de l'état dans lequel il était. Il n'empêche que je pense que ce désir de repousser la mort, donc à la fois dans le temps, c'est-à-dire allonger la durée de vie, également dans l'espace... D'accord. Nous sommes dans une société. Dans mon livre, je compare. Je fais pas mal de comparaisons avec des sociétés, ce qu'on appelle les sociétés archaïques, ou même avec le Moyen Âge, où la mort était présente dans l'espace public. Nous, la mort a été complètement évacuée de l'espace public. Donc, on vit dans un espèce de Disneyland où la mort n'existe pas. Ce désir-là, il est là. Il est à la racine de la naissance de notre monde. C'est ça que j'appelle le déni de la mort, et que c'est pas une idée nouvelle, hein. Vous aviez notamment eu des travaux dans les années 1970 d'un monsieur qui a fondé ce qu'on appelle la thanatologie, qui est l'étude de la mort en fait dans les sociétés humaines, qui s'appelle Louis-Vincent Thomas, qui l'expression que les sociétés modernes sont nécrophobes et mortifères est de Louis-Vincent Thomas. Donc en fait, je ne fais que réactualiser, pour des raisons que je vais vous expliquer, le constat qui avait été fait par Louis-Vincent Thomas il y a maintenant une quarantaine d'années. D'accord. Donc nos sociétés sont des sociétés nécrophobes au sens où elles tentent d'évacuer la vie et de vaincre, puisque allonger indéfiniment la durée de vie, c'est vaincre la mort. D'accord. La mort, c'est, si vous voulez, vous pouvez la considérer comme le symbole de la limite. La mort, c'est ce qui échappe à la raison. Vous ne pouvez pas raisonner sur la mort. Enfin, si vous essayez, je vous montrerai quel est. Enfin, les arguments de genre Épicure, quand tu seras l'argument rationnel, hein, quand tu seras mort, tu t'en rendras pas compte, donc la mort, c'est pas grave. C'est de la rhétorique, quoi. On a tous peur de la mort. D'accord. Et je pense que Le premier pas pour vaincre les effets de cette peur de la mort sur notre comportement de vivant, c'est de s'avouer qu'on a peur de la mort. D'accord. Donc de ne pas être nécrophobe. Donc cette société nécrophobe, depuis un demi-siècle, là aussi j'insiste, ça fait 50 ans qu'on sait qu'on est dans la merde au niveau écologique, hein. C'est pas aujourd'hui, ça fait 50 ans. Il y a des gens que personne n'a écouté, qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant faut s'arrêter. Et sincèrement, si je suis vraiment sincère, je vous dirais que c'était il y a 50 ans qu'il fallait s'arrêter. Aujourd'hui, c'est déjà à moitié trop tard quand même. Donc depuis un demi-siècle, cette dynamique illimitée donc de succession, d'accumulation du capital, de succession de révolutions industrielles, de modernisation technologique permanente, ce processus entraîne une crise environnementale qui aujourd'hui, c'est à peu près clair dans tous les esprits, est un genre de suicide collectif. Donc c'est une dynamique qui est mortifère, qui crée la mort. Donc on retrouve le deuxième terme de Louis-Vincent Thomas, notre société est nécrophobe parce est mortifère, et elle est mortifère parce que nécrophobe. Parce qu'elle refuse la condition humaine, et refuser la condition humaine, le symbole le plus important, c'est évidemment de refuser la mort. Donc si on est logique, si on pense que c'est un système social qui est organisé autour de l'État, du capital et de la technologie qui crée, qui est nécrophobe et mortifère, il ne faut pas s'attendre à ce que l'État, le capital ou la technologie nous sauvent. Je ne sais pas, si vous avez pris un poison, vous n'allez pas, si vous voulez vous sauver avec ce poison, vous n'allez pas vous injecter encore plus de poison. C'est ce qu'on est en train de faire. D'accord. Donc évidemment, l'État et le capital, pour eux, l'objectif, il y a eu une période de négation. Les écologistes, c'est des rigolos, etc. Et puis après, cette période de négation a été suivie par une période de prise en charge de la crise environnementale par les institutions qui l'ont créée. Parce que pour elles, elles considèrent que c'est une opportunité profitable. L'idée, c'est de régler en même temps la crise écologique et de relancer la machine. Parce qu'évidemment, cet après-midi, j'ai pensé, je vais leur servir quand même une petite allégorie du Sud-Ouest. On est des oies qu'on gave, quoi. D'accord. Donc l'idée quand même, c'est de régler les problèmes de l'industrialisme par plus d'industrie, ce qui est paradoxal. Donc au moins en ce qui me concerne, le résultat est à peu près clair. Ce qu'on a appelé l'idéologie du développement, c'est le développement durable, le concept est apparu au moment de la prise en charge. D'accord, ça symbolise la prise en charge par le système de la crise que ce système a provoquée. Donc je vous rappelle que je pourrais vous faire aussi une généalogie du concept de développement. Hein. Le concept de développement, c'est un avatar du progrès. C'est une invention de Truman à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, après la Shoah, etc., on ne pouvait plus parler de progrès. Donc Truman fait un discours en 1945 devant les Nations Unies et il troque le terme de progrès par le terme de développement. D'accord. Mais moi, progrès, développement, c'est à peu près la même chose. C'est une manière politiquement durable de parler d'accumulation du capital. Donc le développement durable, ça date de 1987. D'accord. Donc 87, ça fait plus de 40 ans qu'on nous parle de développement durable. Et pendant ces 40 ans-là, tous les voyants sont de plus en plus rouges. Donc vous avez accélération des émissions de CO2, de la déforestation, de l'écroulement de la biodiversité. Plus on parle de développement durable, plus ces facteurs-là s'aggravent. Donc le capitalisme vert est un échec, au moins de mon point de vue, c'est ce que je défendrai. Donc avec l'idée très simple derrière que le poison, ça reste un poison. Vous pouvez l'habiller de la communication que vous voulez, ça reste un poison. Je ne sais même pas quand c'est que j'ai commencé. Donc si on considère que le développement durable est une impasse, l'antagonisme qui existe dans notre société d'ores et déjà et qui me semble le plus significatif, c'est d'un côté tous les conflits qui existent en matière d'innovation technologique, donc en matière de nucléaire, d'OGM, de fracturation hydraulique, d'intelligence artificielle, et toutes les résistances citoyennes qui peuvent exister un peu partout en France et un peu partout dans d'autres pays contre ce qu'on appelle les grands projets industriels inutiles. et de l'autre, toutes les stratégies technocratiques, soit de fabrique du consentement, soit carrément de répression, qui servent en fait à normaliser ces innovations technologiques. Donc je pense que cet antagonisme en reflète un plus profond, qui a été mis en valeur il y a très longtemps par un auteur qui s'appelle Karl Polanyi. Donc ça date de 1935, pardon. Donc grosso modo, ce que disait Polanyi en 1935, c'est que notre société avait deux possibilités. Donc soit l'extension du principe démocratique de la politique à l'économie, donc une démocratisation de l'économie. Donc je vous signale que, malgré tout, là aussi de manière peut-être un peu provocatrice, que nous vivons en démocratie, entre guillemets, soit on peut même l'accepter, mais quand même les gens passent 8 heures par jour dans des entreprises, et une entreprise c'est pas une institution démocratique, c'est une institution hiérarchisée, d'accord, où l'ouvrier n'a pas son mot à dire sur la politique de l'entreprise. Donc il y a quand même un hiatus entre dans la vie des gens. Vous vivez, si vous enlevez les 8 heures de sommeil, vous vivez 8 heures par jour en démocratie, et quand vous allez travailler en entreprise, vous n'êtes plus en démocratie. Donc je reviens sur Polanyi. Donc soit l'extension du principe démocratique de la politique à l'économie, soit l'abolition pure et simple de la sphère économique démocratique. Donc il précise, ou bien l'extension du principe démocratique à l'économie implique la disparition d'une sphère économique séparée, la sphère politique démocratique devient la société tout entière. Donc grosso modo, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous décrit, c'est l'abolition du capitalisme, c'est-à-dire la réappropriation sociale des activités matérielles et leur organisation démocratique. Ou bien, c'est le deuxième terme de l'alternative, après l'abolition de la sphère politique démocratique, seule demeure la vie économique, le capitalisme tel qu'il est organisé dans les différentes branches de l'industrie devient l'ensemble de la société. C'est-à-dire, soit on démocratise les 8 heures en entreprise, soit le capitalisme devient toute la vie sociale, les 8 heures en entreprise et les autres heures aussi. Et ça, il faut l'appeler par son nom, c'est un techno-capitalisme totalitaire. Donc ce qui est marrant, bon évidemment Polanyi était plutôt socialiste, donc il prônait l'abolition il œuvrait à l'abolition du capitalisme, donc il espérait dans la démocratisation des activités économiques. Donc cette alternative, vous la retrouvez en 1978, mais chez des gens qui sont dans l'autre bord, donc des économistes célèbres, hein. Vous les connaissez pas, mais ils sont quand même célèbres. Michael Jensen et William Meckling, donc université de Harvard. Donc ils énoncent la même alternative, mais de l'autre bord. D'accord. Donc ce qu'ils disent, c'est « La menace qui pèse sur la grande entreprise provient d'un conflit fondamental entre notre forme de démocratie politique et le système de marché. Nous avons la conviction que ces deux systèmes sont en fin de compte incompatibles. » Donc ce qu'ils disent, c'est que la démocratie et le capitalisme sont incompatibles et que tôt ou tard, il faudra, de leur point de vue, abolir la démocratie. Donc l'alternative, c'est donc qui était vue depuis assez longtemps, hein, soit une sortie du techno-capitalisme en vue de l'institution d'une société entièrement démocratique, soit un techno-capitalisme totalitaire. Donc ça, si vous voulez, j'arrive au transhumanisme, hein, vous inquiétez pas. C'est un peu la présentation du cadre général et de l'alternative dans lequel se sont basées mes réflexions, avec l'idée très générale que le transhumanisme s'inscrit dans la dynamique, prolonge de manière un peu délirante le fonctionnement de notre système social, donc des sociétés industrielles, et que petit à petit elles les conduisent à un techno-capitalisme totalitaire. Donc qu'est-ce que le transhumanisme ? C'est essentiellement un discours, c'est un discours ultralibéral ou anarcho-capitaliste, c'est une branche de la pensée sociale aujourd'hui, donc qui prône l'usage dérégulé de la technologie, donc il faut pas déréguler la technologie, toute régulation traduit une technophobie maladive, pour outrepasser les limites de la condition humaine. Donc si vous voulez, c'est du Condorcet mais à la puissance 99, quoi. Donc grosso modo, le programme, c'est abolir les frontières de la vie terrestre. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des photos hier de la fusée que Elon Musk compte envoyer sur Mars. Donc il a fabriqué quand même. Il veut aller sur Mars, hein. Bon, le problème, c'est qu'il peut y aller, hein, moi, ça ne me gêne pas. Hein, mais le tout, c'est qu'il y reste. Voilà. Mais bon, chaque semaine, vous avez eu les 50 ans des premiers pas sur la Lune. Chaque semaine, vous avez ce projet délirant d'aller ailleurs, quoi, dans l'espace. Pourquoi aller ailleurs, je veux dire. Bon, eux, je sais pourquoi ils veulent aller ailleurs. Hein. C'est de l'extraction minière, c'est du business. Hein. C'est toujours du business. C'est le business américain. Il faut repousser la frontière, si vous voulez. Maintenant que la frontière a été repoussée au maximum sur Terre, eh ben il faut aller conquérir l'univers. Donc étendre, évidemment, tout ça est groupé, hein, étendre indéfiniment les capacités corporelles et intellectuelles par la fusion de l'humain et de la machine intelligente. Donc le projet derrière qu'il y a l'intelligence artificielle, c'est d'augmenter l'humain. Évidemment, accéder à l'immortalité. Donc on retrouve le programme de Condorcet. Et puis, grosso modo, c'est résoudre tous les problèmes sociaux et environnementaux qui se posent aujourd'hui. Donc cette pensée, elle est née dans les années 80, c'est une pensée qui est ancienne, hein, en Californie. Donc avec la volonté explicite, je cite des auteurs donc qui sont dans le mouvement transhumanisme depuis sa création en Californie dans les années 80, donc avec la volonté explicite d'affranchir le développement des nouvelles technologies, donc c'est les nanobiotechnologies, intelligence artificielle, pour aller vite. Donc, pour affranchir toutes ces nouvelles technologies de tout ce qui pourrait entraver leur déploiement. Donc, si c'était des foudins qui prêchaient dans le désert, ce serait pas très grave. Le problème, c'est que ce sont des gens qui sont qui ont des fortunes immenses. D'accord. Ce qu'il y a derrière le transhumanisme, c'est ce qu'on appelle les GAFA. Donc, c'est Google, Amazon, Apple, Facebook. Donc toutes ces petits gadgets inutiles qui est un peu partout, à chaque fois qu'on les utilise, on finance le transhumanisme. Donc ce discours s'est internationalisé et il a pénétré l'ensemble des milieux politiques. D'accord. Quelqu'un que Mélenchon est transhumaniste. Vous avez des... Il a fait une déclaration, hein, Mélenchon, où il se... annonçait qu'il était transhumaniste. Vous avez des écologistes qui sont transhumanistes. Donc vous en avez un peu partout, quoi. Vous avez Luc Ferry qui est transhumaniste, ancien ministre de la Recherche, etc., etc. Donc, et de toute manière, indépendamment, après vous avez les transhumanistes affichés, décomplexés, etc. Et puis vous avez tous ceux qui soutiennent ces nouvelles technologies, ils sont transhumanistes par défaut. Hein. Bruno Le Maire qui soutient l'intelligence artificielle, notre ministre des Armées qui soutient son transhumaniste de fait. D'accord. Donc la thèse que je développe petit à petit dans ce livre avec pas mal de 8-8-8 à gauche à droite, cette thèse c'est que le transhumanisme déjà c'est pas, si vous voulez, c'est à la fois dans la continuité et à la fois en rupture par rapport au système industriel. C'est en continuité parce que vous retrouvez l'État, les grandes firmes, le capitalisme le plus avancé, hein, les GAFA c'est le capitalisme le plus avancé. Et la technologie, ce trio, vous le retrouvez dans le transhumanisme. Après, il y a une espèce de rupture, c'est que le programme de Condorcet prend des allures qui sont complètement délirantes. Quelque part dans le livre, tous ces types-là, si vous regardez des reportages, ils sont complètement névrosés. Je veux dire, ils relèvent de la psychiatrie, quoi. Le problème, c'est que aujourd'hui, c'est des tarés qui décident de notre existence, quoi. Il faut bien avoir conscience de ça. Ils ne sont pas forcément névrosés. Oui, plutôt psychotiques. Je suis pas un spécialiste. C'est pour dire qu'ils sont pas bien dans leur tête, quoi. Il y a un reportage, je sais plus comment il s'appelle, où vous voyez un type... Enfin, le type, il rêve de se faire pucer pour que en permanence on lui dise là tu manques de glucose, faut que tu manges ci, etc. Que la machine décide des moindres gestes de son existence, quoi. Il faut quand même être un peu mal dans sa tête pour ça. D'accord. Autant pour moi. autant pour moi. Donc vous allez retrouver la promesse d'immortalité. Donc vous avez évidemment le grand ponte du transhumanisme. Enfin, un des grands pontes, c'est un monsieur qui s'appelle Raymond Kurzweil. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il a cryogénisé son père. Il prend environ, je crois que c'est 180 pilules par jour pour allonger sa durée de vie, pour vivre suffisamment de temps, suffisamment vieux pour qu'on ait atteint l'immortalité, donc pour devenir immortel. Je ne sais pas ce qu'il est, mais il n'est pas bien. ce type-là, il est quand même membre du conseil d'administration du MIT. Donc, qui est la première, enfin, dans le classement de Shanghai, c'est la première université au monde. Donc, il fait partie du monde de la science. Il est directeur de l'ingénierie chez Google. D'accord. Et il est cofondateur, en particulier, de l'université de la singularité, qui est l'université transhumaniste, qui est installée sur le parc de la NASA. D'accord. Donc, c'est le parc de la NASA, il est, je crois qu'il est à la Silicon Valley, il est voisin du truc de Google. Donc, il a qu'à traverser la rue pour passer de l'un à l'autre. Donc, une petite citation au passage de Kurzweil. Des milliards de nanorobots circuleront dans notre sang, notre corps, notre cerveau, dans notre corps. Ils détruiront les agents pathogènes, corrigeront les erreurs de notre ADN, élimineront les toxines, effectueront toutes sortes d'autres tâches pour améliorer notre bien-être physique. Grâce à cela, nous pourrons vivre éternellement. Donc il y a la promesse, mais qui est déjà, je vous l'ai indiqué, à moitié chez Condorcet. Si vous tracez toute l'histoire de l'eugénisme, donc l'histoire de la prise en charge scientifique de la reproduction humaine, il y a toujours cette idée d'amélioration. Hein, qui date depuis donc c'était le cousin ou le neveu de Darwin, Galton, qui a inventé le terme d'eugénisme au 19e siècle. Donc ça, c'est, on pourra reparler l'eugénisme plus tard. Donc d'un côté, la promesse d'immortalité, donc ça prolonge le côté nécrophobe, ce que j'ai défini comme étant le côté nécrophobe de nos sociétés, et puis le côté mortifère, en particulier par la promotion de ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Donc croire que les problèmes qui sont créés par la technologie vont avoir une solution technologique. Donc évidemment, personne ne peut prévoir les conséquences qu'auront les solutions technologiques pour régler les problèmes technologiques d'aujourd'hui. Donc ils vont eux-mêmes créer d'autres problèmes. Donc ça tourne en rond et ça peut tourner à l'infini. Donc des exemples, la biologie de synthèse, donc la fabrication de micro-organismes artificiels en particulier, grosso modo ce que je... dans mon livre, mais je vais faire ça très vite. Après je vous distribuerai des illustrations parce que on arrive à un point où les images peuvent être intéressantes, mais j'en ai pas pour tout le monde, hein. J'ai fait deux présentations pour l'instant, j'avais cinq personnes devant moi, donc j'ai pas prévu que j'aurais un tel succès à Toulouse. On a déjà un gros problème, hein, c'est ce qu'on appelle la déplétion des ressources pétrolières. Pour aller très vite, il n'y a aucun substitut au pétrole. Du point de vue énergétique, du point de vue quantité, du point de vue rapport, je pourrais rentrer dans les détails, il n'y a aucun. Donc une des idées, à part envahir l'Iran, des Américains, c'est d'utiliser des micro-organismes artificiels. Vous savez, c'est un puits de pétrole, c'est une espèce de poche comme ça qu'il y a dans le sol. Donc imaginez que c'est une casserole. Donc l'idée, c'est d'envoyer des micro-organismes artificiels pour racler le fond de la casserole. D'accord. Ils pensent comme ça récupérer ou augmenter de 30% les réserves, donc de prolonger, de faire durer le développement 20 ans de plus, on va dire. Le développement durable, c'est un concept qui n'a aucun sens. D'accord. Parce que si vous considérez que c'est infiniment durable, c'est un pléonasme. Si c'est pas infiniment durable, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Et que si nous étions des animaux raisonnables, plutôt que d'arrêter dans 30 ans, il vaudrait mieux arrêter aujourd'hui. Ce sera moins douloureux aujourd'hui que dans 30 ans. Donc dans tous les cas, développement durable n'a pas beaucoup de sens. D'accord. Le problème, c'est que si vous raclez le fond là et que vous sortez 30% de plus de pétrole, vous rajoutez 2 degrés au réchauffement climatique. Mais il n'y a pas de souci parce qu'il y a, il y a une solution technologique au réchauffement climatique. Ça s'appelle la géo-ingénierie. Donc ceux qui se proposent de créer, c'est les mêmes entreprises, hein, c'est les mêmes capitalistes, pour employer, qui se proposent de produire des micro-organismes artificiels dont personne ne peut prédire ce que ça va donner quand vous jetez des organismes artificiels dans la nature. Après, elles sont dans la nature, quoi. Les conséquences, personne n'est capable aujourd'hui de les prévoir. Surtout qu'avec le pétrole, par exemple, on fabrique des produits pharmaceutiques. C'est-à-dire que ces micro-organismes artificiels, si vous récupérez du pétrole avec ça et que vous fabriquez du pétrole ou à l'intérieur duquel il y a des micro-organismes artificiels, ces micro-organismes artificiels, vous allez les bouffer. Et personne ne sait quelles seront les conséquences quand on va s'alimenter avec des micro-organismes artificiels. Donc le mot savant, c'est méthanotrope, c'est-à-dire bouffeur de pétrole, quoi. On peut créer aussi des micro-organismes artificiels, des algues artificielles qui vont manger du CO2. D'accord. Donc il suffit, c'est des organismes génétiquement modifiés, quoi. Donc si vous voulez, ils ont les solutions techniques. Sans, évidemment, si vous leur demandez ou si vous cherchez à savoir s'ils anticipent les conséquences qu'auront leur solution technique, évidemment, là, c'est le blanc total. Donc, on peut augmenter les réserves pétrolières grâce à la biologie de synthèse. On peut gérer le climat au niveau mondial grâce à la géo-ingénierie. On peut produire des OGM pour régler le problème de la faim dans le monde. Donc, voilà. À chaque problème, il y a une solution technique qui peut, technologique qui peut être. Sincèrement, si vous regardez ce que donnent les organismes génétiquement modifiés chez les animaux qui sont génétiquement modifiés vont pas bien. Ils sont pas névrosés, etc., mais ils vont pas bien, quoi. Ils ont des insuffisances rénales, ils sont pas en forme, quoi. D'accord. Donc je pense que toutes ces technologies vont étendre ce que j'appelle le domaine de la mort, donc vont aggraver l'aspect mortifère de nos sociétés. Donc je pense pas que ce sont des solutions. Le deuxième mouvement qui est lié, la deuxième conséquence des nouvelles technologies, c'est la mécanisation du travail intellectuel, entre guillemets. Tu as fait passer... Prenez-en un pour 3 ou 4, quoi. Donc les révolutions industrielles, le capitalisme a mécanisé le travail physique depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, la conséquence, j'ai encore 10 minutes, la conséquence de la mécanisation du travail physique, elle est très bien décrite dans un vieux texte d'Orwell qui date de 1937, qui s'appelle, c'est le Quai de Wigan, c'est le deuxième chapitre, où il fait une critique du progrès, où en fait il fait une critique des marxistes, en fait, parce que les marxistes, Marx était un progressiste, donc il fait une critique des marxistes, et grosso modo ce qu'il dit, c'est que le progrès mécanique du point de vue physique aboutit à ce qu'il appelle un cerveau enfermé dans un bocal. Si on n'utilise plus nos muscles, etc., ben on se ramollit. C'est pour ça qu'on a le capitalisme adore en fait générer de nouveaux marchés qui gèrent en fait les dégâts qu'il provoque. D'accord. Donc, si vous mécanisez le travail physique, ça crée l'amollissement physique. Pour régler l'amollissement physique, ben vous mettez des gens devant des machines pour qu'ils se remusclent. D'accord. C'est le paradoxe, d'accord. Les machines font le travail et nous ensuite on va pédaler sur des vélos. Donc on se met sur des machines pour essayer d'éviter d'avoir un corps qui fond. D'accord. Donc après la mécanisation du travail physique, vous avez le cerveau dans le bocal. Si vous c'est avec les cerveaux artificiels, vous remplacez le cerveau dans le bocal, il n'y a plus rien. Il faut être logique. Donc il faut voir que toute technologie nous enlève une activité de notre existence. D'abord les activités physiques et aujourd'hui les activités intellectuelles. D'accord. les activités intellectuelles, les activités sociales. Je sais pas, vous connaissez tous les touristes, vous êtes dans une ville, la France est touristique, les touristes qui se baladent dans la ville avec leur téléphone portable pour savoir où ils sont, avec le GPS, ils peuvent pas demander, moi je suis arrivé à Toulouse, j'ai arrêté des gens, où est-ce que la rue Gambetta, quoi. Donc au départ c'était les gestes physiques, aujourd'hui c'est tout. D'accord, c'est en ce sens-là que le technocapitalisme devient totalitaire, c'est-à-dire que il marchandise et il prend en charge de manière technologique tous les gestes de la vie. Donc au départ, vous avez ce que Marx appelait du travail vivant. Le travail vivant, c'est l'activité matérielle, quoi. Donc si vous mécanisez le travail intellectuel après avoir mécanisé le travail physique, vous mettez à mort, vous tuez le travail vivant. Donc c'est mortifère. Un autre élément que je développe dans le livre, c'est la robotisation de la violence d'État. Donc là, vous avez quand même, je vous ai mis une petite photo d'un robot tueur autonome créé par Samsung. Un robot tueur autonome, c'est un robot tueur, hein, mais qui est autonome, c'est-à-dire que c'est la machine qui décide de tirer, quoi. Il y a même plus un type qui appuie sur le bouton. C'est la machine qui tire de manière automatique, c'est détecteur de mouvement, etc. Donc cette machine-là, elle a été déployée sur toute la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc maintenant, le pauvre Coréen du Nord qui veut aller en Corée du Sud, il a des robots tueurs autonomes en face de lui. C'est les drones, hein. Donc il faut voir aussi qu'il y a, je cite un rapport de le rapport qui est dans de la DGDNSSD, là je sais pas ce que c'est, là c'est un truc français sur l'armée française, quoi. Il faut voir qu'aujourd'hui vous avez une fusion du militaire et du policier, c'est-à-dire que toutes les inventions, toutes les innovations technologiques, intelligence artificielle, etc., qui vont avoir lieu dans l'ordre du militaire. D'accord, ce dont parle notre ministre des Armées, Françoise Parly, auront leurs conséquences sur le policier. Et je vous cite la conclusion de ce rapport-là, où les types sont pas du tout optimistes. D'accord. Ce qu'ils prennent en compte, c'est la poursuite du chômage de masse. Je vous cite un article, c'est Oxford, hein, c'est un article, donc... L'université d'Oxford, c'est pas des gauchistes, hein. Ils considèrent que la moitié de la population active aux États-Unis est susceptible d'être remplacée par une intelligence artificielle dans les 20 ans qui viennent. La moitié. D'accord. Donc évidemment, ça va toucher les classes moyennes, hein. Parce que les activités intellectuelles sont les classes moyennes. Les classes moyennes, c'est la stabilité politique de nos sociétés, hein. C'est les classes qui sont moyennement satisfaites, donc qui n'iront pas faire la révolution. Donc je pense que nos gouvernants se préparent à des désordres sociaux et à réprimer ces désordres sociaux par la force. Et ces nouvelles technologies, en dehors des gadgets qu'on a sur la main, se servent d'abord à perfectionner des moyens de répression. Donc, et peut-être le plus compliqué, c'est la mise en place d'une société automate, d'une société cybernétique. C'est remplacer la réflexion par un espèce de feedback, rétroaction automatique. Donc là aussi, c'est déjà mis en route, hein. Quand vous achetez, si vous achetez, ce que je vous déconseille surtout, que je le fais pas, puis on est dans une librairie, et puis il faut que les librairies vivent. Mais j'y vais parce que je fais des recherches biographiques dessus, c'est Amazon. D'accord. Si vous faites des recherches bibliographiques sur Amazon, la fois d'après que vous allez sur Amazon, Amazon va vous conseiller des livres. D'accord. C'est-à-dire que vous avez un feedback automatique, une rétroaction, c'est-à-dire que l'information que vous donnez est gérée par une intelligence artificielle qui va vous conseiller dans vos gestes de consommation. D'accord. Donc cette intelligence artificielle va vous guider. D'accord. Sauf que le même type d'intelligence artificielle existe au niveau policier. C'est-à-dire que toutes les caméras qu'il y a dans les villes. Tous les mouvements avec les téléphones portables, etc., sont enregistrés et sont mis dans des, c'est les big data, hein, des logiciels qui sont chargés d'analyser ces big data de manière algorithmique, de manière à prévoir non seulement les actes, les vols, etc., mais également les rassemblements populaires, etc., etc., etc. Donc je pense que toutes ces technologies, en dehors des amusements que ça peut nous apporter, j'arrive à la conclusion. J'ai encore 5 minutes. Je suis dans le... Donc je reviens un peu à mon introduction. Je pense que toutes ces technologies mettent en place petit à petit, de manière insidieuse, doucereuse, ce que j'ai appelé un technocapitalisme totalitaire. D'accord. Donc il est totalitaire, là aussi je vais simplifier au maximum, au sens où déjà il tend à abolir la vie privée. Donc une petite citation de Vinton Cerf, vice-président de Google, « La vie privée peut être considérée comme une anomalie ». Donc c'est pas Hitler, c'est pas Staline, c'est Google. D'accord. Et nous devenons complètement transparents, hein. Je veux dire, les puces électroniques, ça nous rend complètement transparents. Donc évidemment, un tel point de vue, c'est pour Vinton Cerf, vous dire, je pense pas qu'il soit totalitaire dans sa tête, c'est un capitaliste, d'accord. Il faut trouver des débouchés aux capitaux excédentaires. D'accord. Ces types-là ont des fortunes colossales. S'ils font, je vais le dire de manière encore plus caricaturale, nous sommes une société qui sert un dieu qui est extrêmement abstrait, qui est l'argent. L'argent, c'est une abstraction, hein. C'est la représentation abstraite de tous les besoins. D'accord. Et ce dieu est très particulier, il ne doit jamais dormir. D'accord. Donc nous nous activons pour que ce dieu-là ne dorme jamais. D'accord. Donc pour Vinton Cerf, prendre en charge tous les gestes de la vie, de manière algorithmique, tous les gestes de la vie dans le travail et hors du travail, c'est une simple manière de ne pas faire dormir son fric, quoi. D'accord. Il n'empêche qu'il développe des technologies qui sont, je pense, fondamentalement totalitaires. Donc en tout cas, il fait en sorte que le techno-capitalisme, ce soit pas simplement les 8 heures de boulot, c'est la vie entière. Donc on essaye de pucer les animaux, je vous signale qu'il y a des êtres humains qui acceptent d'être pucés dans certaines entreprises. Donc le puçage est en train d'être introduit à l'intérieur même de nos corps. D'accord. Donc d'un côté, vous avez cette espèce d'abolition de la vie privée, et de l'autre côté, vous avez développement de technologies qui se préparent, qui sont des technologies de répression. Je pense que nos gouvernants ont quand même une petite idée du chaos social qui nous attend. Et je pense en particulier, je ne pourrais pas... J'y pense maintenant, c'est une lecture un peu ancienne. Il y a une dizaine d'années, vous avez les éditions Alia qui ont publié un petit rapport américain sur le réchauffement climatique. Vous savez, les Américains sont très forts. Hein, ils réunissent des universitaires de différentes disciplines et ils les font bosser sur un truc. Le plus ancien, le plus connu, c'était un rapport sur la guerre dans les années 70 où les États-Unis sont une économie de guerre. C'est une économie de guerre qui a été mise en place pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 70, ils ont réuni des intellectuels comme ça, dont Kenneth Galbraith, un célèbre économiste. Je pense que c'est lui qui a sorti le rapport. Avec la question, est-ce que les États-Unis peuvent sortir d'une économie de guerre? La réponse est non. Aux États-Unis, vous avez un ingénieur sur deux qui travaille pour l'armement. Donc, pourquoi oui, le rapport sur le réchauffement climatique, les États-Unis, enfin, dans ce rapport-là, vous avez aucun intérêt pour la question comment freiner le réchauffement climatique. La seule question qui se pose dans ce rapport-là, c'est d'abord est-ce que effectivement il va avoir lieu. La deuxième constatation qui est moins réjouissante pour ceux qui se prélassent sur les terrasses de café, c'est que la prévision, c'est que le réchauffement climatique actuel aboutisse à une nouvelle ère de glaciation. Paradoxal, hein. Les glaces qui fondent au pôle, c'est de l'eau douce. L'eau douce plonge sous l'eau salée. D'accord. Elle est plus lourde que l'eau salée, elle plonge. Et l'idée, c'est qu'à partir d'une certaine quantité d'eau douce, tous les courants marins qui existent aujourd'hui et qui font que nous vivons aujourd'hui dans un climat tempéré vont disparaître. Et le jour où ces courants marins disparaissent, vous entrez dans une nouvelle ère de glaciation. C'est les prévisions américaines. Donc là, vous pourrez mettre des glaçons dans le... Je fais cours en Bretagne, je dis à mes étudiants bretons qu'il y aura les pingouins en Bretagne, quoi. Vous pourrez mettre des glaçons dans le pastis, mais vous aurez peut-être moins envie de boire du pastis. Et donc la deuxième question, c'est pour les Américains, c'est d'anticiper les mouvements de population qui auront lieu à cause du réchauffement climatique de manière à pouvoir gérer les mouvements de population. Quand j'entends qu'on fait... excusez-moi, je commence à être un peu fatigué. Qu'on nous fait un caca nerveux pour 80 immigrants. Les anticipations pour les migrations qui sont dues au réchauffement climatique, ça va se compter par millions. D'accord. Et les camps, parce que vous avez un organisme paramilitaire européen qui s'appelle Frontex, qui paye des pays frontaliers de l'Europe pour faire des camps de rétention. Mon anticipation, c'est que ces camps de rétention vont devenir des camps d'extermination. Pour parler de la mort. Donc, tout ça pour dire, et ensuite je m'arrêterai, donc la mort est inscrite dans notre logique sociale. D'accord, c'est l'aspect nécrophobe de nos sociétés, l'aspect mortifère de nos sociétés, elle est dans nos institutions. Elle est dans l'État, elle est dans le capitalisme, elle est dans la technologie. D'accord. Elle est aussi, grosso modo, dans nos comportements. Parce que dans une société qui est mortifère, donc qui évacue la mort de l'espace social, chacun est renvoyé à sa propre mort. D'accord. Et ça, je vous signale qu'il y a un philosophe qui a analysé ça très anticipé, c'est Pascal. Vous connaissez tous Pascal. Je ne sais pas si vous connaissez le divertissement pascalien. Ce que décrit par ce concept Pascal, le divertissement, c'est s'agiter, se divertir. La diversion, ça peut être de gagner de l'argent. Hein. C'est se divertir pour ne pas penser à la mort. Il dit que l'homme sans Dieu, donc l'homme sans transcendance, l'homme sans culture, c'est-à-dire nous, c'est un individu qui est condamné au divertissement. Donc ce divertissement-là, il est aussi... on est une société, ce que les anthropologues appelleraient une société chaude, une société d'agité du bocal, quoi, je veux dire. Ce qu'on appelle... Vous avez un bouquin, là, qui est en devanture, d'un Allemand qui s'appelle Rosa, sur l'accélération. On va de plus en plus vite, on s'agite de plus en plus, on peut jamais s'arrêter, parce que... comme on est renvoyé de manière individuelle et individualiste à notre propre mort, eh ben, on fait tout pour ne pas être... pour ne pas être face à elle. D'accord. Donc c'est ce que un auteur très connu, hein, prix Nobel je crois, Elias Canetti appelait ça l'infection par la mort. Donc Elias Canetti, c'est un bouquin qui était sorti après le mien, je l'ai lu puisque c'est un thème qui m'intéresse, ils ont appelé ça le livre contre la mort. C'est un livre qu'a jamais fini Elias Canetti, mais qu'il a écrit toute sa vie. Toute sa vie, il a été obsédé par... donc c'est toutes ses notes depuis les années 30 ou 40 jusqu'à sa mort, et qui concernent la mort. Donc une réflexion qui date de 1982. Dans la lutte contre la mort, il semble... Parce que un contresens par rapport à ce que je raconte, c'est de se soumettre à la mort. C'est pas du tout ça que je dis. Dans la lutte contre la mort, donc je suis d'accord que c'est quelque chose contre laquelle il faut lutter. La question, c'est savoir comment. Il semble qu'il ne s'agisse jamais que de la lutte que l'on mène contre sa propre mort. Ce serait trop peu, ce ne serait rien. Comment montrer assez clairement et de manière à ce qu'aucun doute ne subsiste qu'il s'agit de la mort en tant que telle et peut-être moins de la durée trop courte de la vie que de l'influence de la mort qui est toxique. Donc ce que ne prend pas en compte notre société en évacuant les morts, la mort de l'espace public, c'est qu'elle libère de cette manière-là l'influence toxique de la mort sur les comportements. Donc c'est une idée que je peux citer des gens dans l'Antiquité. Je ne sais pas si vous connaissez l'école de Francfort, Horkheimer. La vie cherchant à oublier la mort tombe justement sous son fouet. Donc plus vous essayez d'évacuer la mort, plus vous allez être esclave de la mort. Octavio Paz, une civilisation qui nie la mort en vient à nier la vie. Donc c'est une manière de dire que notre société, notre civilisation est nécrophobe, elle cherche à fuir la mort et donc elle en vient à nier la vie, elle est mortifère. Donc ben, il suffit de prendre la réciproque hein, de ces propositions. Si je prends la réciproque d'Horkheimer, seule la vie qui n'oublie pas la mort peut échapper à son fouet. Et si je renverse Octavio Paz, seule une civilisation qui accepte la mort peut en venir à célébrer la vie. Voilà. Je m'arrêterai là.
Je ne sais pas si c'est vraiment une question ou une réflexion par rapport à un aspect de ton livre qui est à la fois ressorti et pas ressorti tout à fait de ce que tu viens de dire. C'est une autre manière de montrer le lien, et moi qui m'a beaucoup intéressé, entre le caractère, le lien entre la nécrophobie et le caractère mortifère. Donc comment la hantise de la mort, la nécrophobie, produit finalement, enfin, ne fait qu'aggraver la fuite en avant destructrice. C'est le lien que tu fais à un moment donné. Tu dis que bah, le dénier la mort, c'est le geste typique de ceux qui la donnent, c'est-à-dire le geste typique des dominants, de toutes les classes dominantes à toutes les époques, qui, en effet, être en position de domination, c'est avoir justement ce pouvoir de vie et de mort sur les autres. Et c'est justement dans ces classes-là que le déni de la mort s'est développé de manière maladive. Pour faire une autre histoire un petit peu allégorique qui témoigne beaucoup de tout ce que tu as dit, et même en lien avec la question écologique, c'est le plus vieux texte quand même de l'humanité, donc l'épopée de Gilgamesh, où Gilgamesh, donc un roi surpuissant à Sumer, ivre de puissance, se dit que bah, pour acquérir la toute-puissance, il faut qu'il bute Dieu. Maintenant, il a pas assez buté de gens, etc. Et donc, il part avec une armée. Et visiblement, à cette époque-là, le dieu ou ce qu'il croyait être tel vivait dans une forêt. Donc, il fait raser une immense forêt de cèdres pour finalement affronter le dieu et trouver la mort. Hein. Donc, c'est une happy end pour nous. Mais ça illustre à la fois le lien entre folie de la puissance, enfin délire de puissance, cataclysme écologique, puisque les problèmes de déforestation ont été à la source de toutes les catastrophes écologiques depuis l'Antiquité, et puis voilà, désir d'immortalité. En fait, c'est vraiment ce nœud là entre ces trois choses, c'est depuis plus de 5000 ans presque.
Non, mais je développe en même temps, je raconte pas tout le livre parce que sinon il y aura plus de surprises. Oui, dans mon livre, je fais le lien justement entre la domination et mais c'était entre la domination et le fait que effectivement c'est le dominant c'est le dominant qui a le pouvoir de mort sur l'esclave en particulier. L'esclavage en Antiquité, c'est pas un statut économique. Hein. Il faut. Moi, je suis enseignant. Dans l'Antiquité, j'aurais été un esclave. Et relativement au niveau de vie de l'époque, j'aurais une vie qui serait aussi confortable qu'aujourd'hui. Donc, c'est pas un statut économique. C'est une société esclavagiste où l'esclavage a un statut politique. Et le statut politique, c'est le fait de ne pas pouvoir être citoyen. Et aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas tellement reconnus en tant que citoyens, je veux dire, à part le symbole d'aller poser un bulletin de vote de manière périodique. Donc on partage un peu ça avec les esclaves. Et l'autre aspect de l'esclave, c'est de vivre sous la menace. Le maître peut le mettre à mort quand il veut, quoi. Et nos maîtres sont en train de nous mettre à mort. Donc, bon. Bref. Donc oui, le dominant a pour caractéristique d'être nécrophobe et mortifère. Mais là, je pense que je rajouterais deux choses. D'abord, je suis bien conscient que toutes les sociétés, et puis même tous les animaux, ont une influence qui peut être négative. Et la déforestation en Grèce, par exemple, a été très importante pour des raisons militaires. Mais que malgré tout, ça n'avait pas le caractère systématique que ça a aujourd'hui. Je pense que la crise écologique, elle est quand même liée au capitalisme. Je sais qu'il y a des gens qui remontent à 5000 ans, à la révolution néolithique, etc. Je pense qu'il y a quand même une mesure... ma fille me demandait dans quelle période historique préférée, quelle serait ma période historique préférée. Et du coup, elle a été obligée de chercher le dictionnaire. J'ai répondu le paléolithique supérieur. Évidemment, j'ai une sympathie pour les chasseurs-cueilleurs, mais aujourd'hui, on est 6 milliards, quoi. Je veux dire, il faut voir que même si on essaye de faire un pas en arrière, on peut pas faire un pas en arrière jusqu'aux chasseurs-cueilleurs, malheureusement. Mais la promesse de notre société, c'est qu'on soit tous des dominants. Ma blague tout à l'heure avec Louis XVI, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la bourgeoisie a promis de libérer tous les hommes des souffrances de la vie humaine. Le travail, je veux dire, on célèbre la fin du travail. Je suis désolé, mais moi je célèbre pas la fin du travail. C'est la même chose que l'immortalité. Tout ce qui a été perçu dans notre civilisation, dans notre culture, comme relevant de la souffrance humaine, doit être supprimé. Et on en parlait tout à l'heure. Au moins en partie, ce livre est à l'influence de Nietzsche, puisque c'est la question que pose Nietzsche. Et je pense qu'il y a une idée très importante chez Nietzsche, qui est de dire que la joie n'est pas le contraire de la souffrance. La joie, c'est quelque chose qui enrobe la souffrance. Je veux dire, on est des êtres mortels et conscients d'être mortels. Donc, par définition, on est des êtres souffrants. D'accord. Ceux qui croient qu'on pourra se débarrasser de ça, ils sont conséquents, c'est de supprimer l'être humain, quoi. Il y a de la joie dans le travail. Je veux dire, dans le travail libre. D'accord. Évidemment, si vous êtes vacataire ou précaire et que vous allez nettoyer les centrales nucléaires en France, parce qu'il y a des gens qui vont se nettoyer les centrales nucléaires, il faut bien les nettoyer. Évidemment, le travail, c'est une galère et votre travail, il est mortel, quoi. Les types ont une durée de vie qui est extrêmement courte, quoi. Je pense qu'il y a une mythologie qui existe aussi à gauche qui est de vouloir se libérer du travail. Je pense que non, il faut libérer le travail du capitalisme. Mais le travail, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la condition humaine. La condition humaine, c'est le travail, c'est la souffrance, c'est la maladie, c'est la mort. Ça existe, c'est comme ça, je veux dire... on a deux possibilités. Soit on essaye de le fuir et on essaye par les technologies de nous délivrer de ça, mais ce que j'essaye d'expliquer, c'est que c'est mortel. Soit on l'accepte. On l'accepte et on fait en sorte, parce qu'il y a des sociétés qui ont réussi à le faire, notamment dans les sociétés primitives. Je fais pas mal de comparatismes que je peux pas faire pendant mon... des sociétés qui arrivent à vivre ça de manière joyeuse. La joie n'est pas le contraire de la souffrance, c'est l'au-delà de la souffrance.
C'est quelle société ?
Ben, déjà, dans les sociétés primitives, il y a une idée très simple, c'est que les sociétés primitives, leurs morts sont présents. D'accord. Je sais pas, je prends un exemple au hasard dans les... C'est Pierre Clastre qui raconte ça dans les Indiens Guayaki. En fait, c'est des nomades, mais c'est des nomades sédentaires. Hein. Ils vont à un endroit, ils vivent, puis quand c'est un peu épuisé, ils vont ailleurs. À chaque fois qu'ils se déplacent, ils déplacent les morts.
C'est eux qui nettoient les eaux des morts.
Ouais. Mais il faut voir, il faut pas... Le fait que les morts soient présents parmi les vivants, ça veut dire aussi que les vivants vont être plus paisibles parce qu'ils savent que quand ils vont mourir, ils vont pas être évacués, ils seront toujours là. Donc symboliquement, symboliquement, c'est une manière de surmonter la douleur de la mort, parce que vous avez aussi un épisode de Pierre Clastres où ils sont obligés d'abandonner une mère, et vous avez, je pense même qu'il a traduit les chants de douleur du fils après l'abandon de sa mère, donc il pleure la mort de sa mère. Mais en même temps, les morts sont présents. Et la présence des morts à l'intérieur de l'espace social fait que les vivants angoissent moins vis-à-vis de la mort, parce que la mort pour eux n'est pas synonyme d'exclusion. Donc je sais pas si c'était conscient ou inconscient, moi je suis pas ethnologue, et puis mais c'était, même si c'est inconscient, c'est une stratégie d'apaisement de la vie sociale. C'est ce que je disais par rapport au divertissement pascalien tout à l'heure. La manière dont nous traitons les morts, elle n'est pas importante, non seulement pour... Elle est importante par rapport aux morts, mais elle est importante par rapport à nous. Par rapport au fait de mener une existence qui est plus paisible par rapport à la conscience de la mortalité. Je vais vous donner un autre exemple très simple. J'ai un beau-frère et une belle-sœur, pour moi c'est un sujet d'observation sociologique particulier, parce que c'est des gens qui ont eu qui ont suivi la voie royale tout le temps, quoi. Bac scientifique, maths sup, école d'ingénieur, grandes entreprises, grands cadres dans des grandes entreprises, mon beau-frère, il est pas, il gagne beaucoup d'argent, mais c'est pas son but. Si vous le faites parler, son but c'est le divertissement pascalien, ça l'occupe.
Du coup, juste peut-être un commentaire puis une question. Après, j'ai une vraie question. Il y a une différence quand même appréciée entre le travail marchandise, qui est lié au salariat, et l'activité ou le faire, qui est lié à la reproduction. À souvenir collectivement, ouais, aux besoins de la communauté. Si la façon dont tu l'as dit, c'était un peu...
Oui, je me suis peut-être mal exprimé, mais justement, c'est pour dire que plutôt que de rêver de se libérer du travail, il faut se libérer du travail marchandise pour avoir une activité, justement, pour pas éliminer le travail. Il faut pas rêver d'éliminer le travail. Et puis même si le travail, il y a un aspect de souffrance qu'il faut bien reconnaître, parce qu'aujourd'hui, on l'a un peu oublié, parce que justement, on a évacué une grande partie des travaux physiques. Donc, travailler, c'est pas... Mais justement, c'est d'englober cette souffrance à aussi sa propre joie.
Oui. Et du coup, ma question précise, c'était quelle différence tu fais entre technique et technologie ? Parce que je creuse un peu cette question. J'ai l'impression qu'il y a... ça varie un peu selon les auteurs, que ce soit Manford, Deleuze... Nietzsche est plutôt sur l'outil. Et toi, tu différencies vraiment technique de technologie ?
Ben je veux pas, déjà, ma critique de la technologie n'est pas la critique de la technique. La technique est universelle, même les animaux utilisent des techniques. C'est la question, c'est d'où ça vient. D'accord. Dans toutes les sociétés jusqu'à la révolution industrielle, la technique, elle est immanente à l'activité du travail. C'est-à-dire que c'est lié au savoir-faire. D'accord. La technologie, c'est pas quelque chose qui vient d'en bas, c'est pas quelque chose qui vient de la vie, on va dire, de la vie du travail, c'est quelque chose qui vient de la science, c'est-à-dire d'un savoir qui s'est détaché du faire, mais qui se retourne contre le faire de manière à soumettre ce que Husserl appelle le monde de la vie à de la théorie. D'accord. Donc je pense que la distinction, elle vient de là. Et je pense que la technologie, je fais toute une généalogie de la science, quoi. Un des gros problèmes de nos sociétés, c'est justement que le savoir s'est séparé du faire et qu'il ordonne la manière dont le faire se met en place. C'est le cadre dans une entreprise qui va dire à l'ouvrier comment l'organisation scientifique du travail. Et la révolution industrielle, c'est pour ça que le capitalisme et la technologie sont liés de manière très importante. C'est que la révolution industrielle, c'est l'OST, l'organisation scientifique du travail, et le machinisme, c'est-à-dire les applications des théories scientifiques, les applications.
J'ai l'impression effectivement qu'il y a, une rupture un peu entre, ça rejoint l'idée d'une rupture entre l'élite et le peuple qu'on retrouve des traces un petit peu dans la mythologie babylonienne, notamment avec le mythe de Marduk qui va impacter aussi sur l'Ancien Testament, où on a Marduk qui vient d'être vainqueur, devient vaincre Tiamat, la déesse mère, et donc il y a une réorganisation du monde des dieux. Et les petits dieux deviennent un petit peu les travailleurs, les ouvriers, et il y a une première révolte en fait de ces petits dieux-là. Et donc la solution pour échapper à ce conflit, c'est de créer de donner vie à une nouvelle créature qui sera donc l'homme, créé donc à partir de l'argile et du sang d'un autre dieu. Et donc après quelques temps, donc les hommes se démultiplient et ça commence effectivement à énerver un petit peu Marduk, et il veut s'en débarrasser. Donc de temps en temps, il y a effectivement des sécheresses, des machins, et notamment le déluge à un moment donné pour se débarrasser de ces hommes. Et à chaque fois, il y a Ea, le sage, qui intervient pour sauver l'humanité, parce que de toute façon, les dieux en ont besoin, parce que c'est pour ça qu'ils les ont créés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un contrat entre les dieux et les hommes. Les hommes ont besoin des dieux et les dieux ont besoin des hommes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, il y a on est en train de sortir de ce contrat avec les nouvelles technologies. C'est-à-dire, les nouvelles technologies donnent une puissance à ces nouveaux dieux, qui font que, comme vous dites, 50% des gens n'auront plus de travail, par exemple, aux États-Unis.
J'ai pas dit que ça sera 50%.
Oui, en tout cas.
C'est possible.
C'est possible.
Après,
en tout cas, il y aura un grand nombre de personnes qui deviendront superflues. Et donc, des personnes qui deviennent superflues, c'est des personnes qui peuvent finir dans des camps de concentration, puisqu'on n'en a plus besoin. Et voilà, donc c'était juste cette remarque-là, donc, et ce qui explique aussi, par exemple, actuellement, qu'on n'écoute plus les gens qui manifestent, en fait. On n'en a pas besoin. Et technologiquement, on a de quoi les contrôler et les gérer. Et la question, c'est, est-ce que la fuite vers l'immortalité n'est pas une fuite vers la mort ?
Oui, c'est ça. Quand je dis que moi j'ai tout fait mon exposé en reprenant les termes de Louis-Vincent Thomas, la nécrophobie et l'aspect mortifère. C'est lui qui dit que les sociétés modernes sont nécrophobes et mortifères. Donc oui, c'est la fuite vers l'immortalité génère la mort. Oui, c'est l'objet du livre. Vous avez bien compris le.
Oui, donc derrière ce trio capitalisme, technoscience et État, voilà, pardon. J'ai l'impression qu'il y a, cette volonté de domination en fait à l'origine peut-être, et cette qui est devenue une sorte d'hubris de puissance démesurée. En partie grâce à la connaissance. Enfin bon, j'essaye de reprendre un peu ce que vous disiez. Et je me demande dans ces sociétés qui ont réussi à ne pas tomber dans ce piège, qui est un piège humain en fait, puisqu'on peut tous tomber dans cette angoisse de la mort et découvrir qu'avec la connaissance, finalement, on peut acquérir un certain pouvoir, une domination par rapport à cette peur-là. Donc tu as parlé des sociétés primitives qui essayent d'apaiser par rapport à la peur de la mort. Donc ça me paraît être une piste vraiment intéressante. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, je me pose la question de la connaissance, est-ce qu'il ne faut pas des garde-fous par rapport à la connaissance en fait ? Est-ce que la connaissance, qu'on peut appeler scientifique, ou ce rationalisme ne donne pas un pouvoir qui devient très vite démesuré et qui peut conduire à l'autodestruction, quoi ? Est-ce que c'est pas le propre de l'humain ? Est-ce qu'il n'y a pas des sociétés qui essayent de contrôler ça d'une manière ou d'une autre ? Enfin, c'est une question qui fait peur parce que ça nous renvoie à une histoire de l'obscurantisme, etc. On est formé pour ne pas se donner limite, en fait. Et je voulais savoir s'il y avait des exemples de sociétés.
Ben, je pense que, enfin, quand j'ai dit que c'est très récent, il y a 2 siècles, il y a eu un bouleversement qui est, ceux qui regardent l'histoire longue le considèrent comme un bouleversement qui est aussi important que la révolution néolithique. Je pense que il y a peut-être eu des folies, des grandeurs de certains dominants, etc. Je prétends pas avoir une connaissance universelle, mais j'ai trouvé que on a un point commun avec les fondateurs de la civilisation qui sont les Égyptiens, c'est que les Égyptiens considéraient la mort comme une maladie. Et nous sommes dans une société qui considère la mort comme une maladie. C'est pour ça, l'idée d'immortalité aujourd'hui, c'est de pouvoir guérir la mort. Si vous lisez, il y a un médecin français qui s'appelle le docteur Alexandre, ouais, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La mort de la mort, ou qui est un des types qui fait l'apologie du transhumanisme en France. C'est un médecin. Après, il a pu exister des dominants qui sont tombés dans la démesure, mais ça restait une démesure humaine, à dimension humaine, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que je l'excuse, etc. Mais il n'y avait pas ce... ils n'avaient pas la technologie, ils n'avaient pas la technoscience. Donc la technoscience, ça donne des moyens qui sont illimités à ce type de délire-là. Et ce type de délire-là, en plus, il est partagé. Avant, c'était des individus, des rois, qui pouvaient partir en vrille, mais de manière isolée, de manière humaine. Aujourd'hui, c'est collectif, et vous avez des moyens que n'avaient pas ces sociétés-là. D'accord. Après, c'est difficile de... C'est difficile de parler de la Homo sapiens, c'est 150 000 ans. D'accord. La révolution industrielle, c'est 200 ans. Du point de vue de l'histoire, c'est rien, quoi. C'est très difficile de comparer et de vous dire... de toute façon, il n'y a pas de modèle. Hein. On ne pourra pas retourner vers d'autres sociétés. Enfin, je ne sais pas si c'est votre question, mais... on peut s'inspirer. Je veux dire, quand vous lisez Pierre Clastres et que... Je ne dis pas que les sociétés primitives le faisaient exprès, mais qu'en fait, on peut penser que la manière dont elles traitaient leur mort leur permet d'avoir une vie qui était plus apaisée par rapport à la mort, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer aujourd'hui. Mais on ne peut pas redevenir les Indiens Guayaquil, je veux dire. Ouais. Donc le comparatisme, l'histoire, c'est une manière de... C'est pas quelque chose pour retourner en arrière, c'est quelque chose qui peut être une source d'inspiration pour essayer d'agir autrement.
Est-ce que la connaissance telle qu'on on la présente aussi dans les mythes, par exemple le mythe du paradis perdu, est-ce que c'est pas une transgression d'une certaine façon? Et d'accord, bon, c'est pas moi. Et du coup, est-ce qu'il faut pas essayer de limiter? Enfin, il faut justement, on n'a pas vraiment de référentiel. L'humain, en fait, mais est-ce que pour éviter ce piège de la technoscience et du développement sans limite, est-ce qu'il ne faut pas chercher à limiter la connaissance, en fait, d'une certaine façon? Enfin, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des sociétés qui cherchent justement à limiter, ou est-ce que dans l'histoire, il y en a eu, je ne sais pas, chez les pythagoriciens, ils essayaient de... C'était une sorte de secte, c'est ça? Enfin, je ne suis pas spécialiste.
Oui, moi non plus.
Mais bon, c'est une question que... Voilà.
Non, c'est parce que leur savoir était fermé, parce que ça leur donnait du pouvoir aussi. D'accord. Mais aujourd'hui, le savoir des scientifiques, il est à peu près aussi fermé, je veux dire... Même entre eux, c'est le travail scientifique il a été soumis à une telle division du travail que vous prenez un biologiste qui travaille dans un certain domaine et un physicien qui travaille dans sa spécialité, ils parlent pas le même langage, d'accord, ils pourront pas communiquer entre eux. Donc c'est pas des sectes, mais c'est quand même un savoir qui est fermé, qu'il n'y a pas de démocratisation possible de la science. Le problème de la science, c'est... Je vais vous le faire par rapport... Je raconte l'histoire de Galilée... Enfin, je raconte pas l'histoire de Galilée, mais je parle un peu de Galilée. Galilée, c'est un scientifique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se pose des interrogations qui font partie de ce qu'on peut appeler la contemplation. D'accord ? Il est dans la contemplation du ciel, des étoiles, etc. Il veut les expliquer. Donc il n'y a pas de souci. Le premier souci, c'est que ce savoir contemplatif, il est séparé de la pratique. Mais bon, vous pouvez vous dire, c'est pas très grave. Le problème, c'est que quand vous allez voir la vie qu'a menée Galilée, Galilée, au niveau matériel, il était un peu dans la merde en permanence, parce que regarder le ciel, ça vous nourrit pas. D'accord. Donc, il était obligé de se tourner vers des mécènes. Et ce qu'il promettait à ces mécènes, c'était des applications de son savoir mathématique qui concernaient soit l'enrichissement, soit les aspects militaires. Donc je parle d'une lettre qui est quasiment une lettre de motivation de Galilée au grand-duc de Toscane, où dans cette lettre de motivation, il ne parle que d'application de son savoir. Il est obligé de vendre son savoir. Le savoir contemplatif n'a pas d'autonomie matérielle, donc il est obligé de se vendre. Et c'est pour ça que les scientifiques, moi je dis pas que les scientifiques sont mauvais. D'accord. Mais les scientifiques sont pris dans un mode de fonctionnement où ils sont obligés de travailler soit pour l'État, soit pour des grandes firmes. Et c'est l'État qui fixe, ce que je vous ai cité Bruno Le Maire, aujourd'hui, si vous êtes un scientifique, on va vous financer pour travailler sur l'intelligence artificielle. Que vous soyez bon ou que vous soyez mauvais, c'est pas le problème. D'accord. Et le savoir contemplatif dans l'Antiquité, il est né parce que ceux qui développaient le savoir contemplatif dans l'Antiquité, c'était des hommes libres qui avaient des esclaves pour bosser. Aristote, il avait des esclaves, Platon avait des esclaves, je veux dire, c'était des types qui n'avaient pas à se soucier de l'aspect matériel de leur existence. Et c'est parce qu'ils n'avaient pas à s'en soucier qu'ils n'ont pas développé des applications pratiques, ils pouvaient être dans la pure contemplation. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint un tel niveau de développement, de progrès scientifique, que ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que le progrès scientifique aujourd'hui, il ne peut être financé que par l'État ou par des grandes firmes. Si vous pensez à une société qui n'est plus dans l'enrichissement, ce sera une société qui n'aura pas les moyens de financer les recherches scientifiques d'aujourd'hui. Après, est-ce qu'il ne faut pas penser que on a développé le savoir de manière très importante et qu'on a atteint les limites de ce savoir-là, les limites humaines? Est-ce que c'est... Je vous cite Galilée et puis un transhumaniste qui pense qu'ils vont découvrir la volonté de Dieu. Je veux dire, mais pourquoi on veut découvrir la volonté de Dieu, je veux dire? Est-ce que la part de mystère qui existe dans le monde n'est pas aussi importante que... Est-ce qu'on n'en sait pas assez pour pouvoir se diriger dans et vivre correctement dans le monde?
Est-ce que je peux vous permettre de faire un tout petit... Par rapport à ta question, c'est une question que je me suis souvent posée, justement. Est-ce qu'il faudrait pas limiter le savoir, brider le savoir, revenir, réinstaurer l'inquisition, une inquisition écologique ou je ne sais quoi, je pense que moi je me dis que j'en suis venu à l'idée que c'est pas la bonne manière de poser le problème, parce que en fait de cette manière-là, en fait on suppose que derrière le mot savoir il y aurait une même substance depuis 150 000 ans. Mais en fait, le savoir, c'est une catégorie historique, la science, c'est une catégorie historique. Et si on réhistoricise, on voit qu'il y a plein de types de savoirs complètement différents. Donc le problème n'est pas de poser une limite au savoir, à une savoir qui serait universel, unique, etc. C'est de quel savoir on a besoin. Et par exemple, en effet, est-ce qu'on a besoin de projet Manhattan, d'accélérateurs de particules, etc., etc. Enfin, voilà, c'est juste...
Radio Livre.